RFI, 9h30 à Paris, 8h30 en temps universel.
Sébastien Duhamel.
Et c'est parti pour le dernier journal africain de votre matinale avec à la une Moussa Dadis Camara qui est gracié en Guinée, l'ex-chef de junte condamné l'an passé pour crimes contre l'humanité. Décision du général Mamadi Doumbouya qui évoque des raisons de santé. Cet appel ensuite en faveur d'une justice réelle en Mauritanie. Manifestation hier du collectif des veuves des militaires victimes d'exécutions extrajudiciaires entre 1989 et 1990. Elle rejette une indemnisation proposée sans jugement. Comment garder les jeunes sur le droit chemin? Comment éviter qu'ils rejoignent les rangs des djihadistes? Une soixantaine d'agents des systèmes d'alerte et de prévention du Bénin, du Burkina et du Togo se sont retrouvés pour discuter ces deux derniers jours. Des promesses de dons records à Paris, 27 milliards de dollars pour lutter contre la malnutrition. Conclusion du sommet Nutrition for Growth, mais la société civile attend désormais des résultats, vous l'entendrez. Moins d'un an après sa condamnation à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité, Moussa Dadis Camara jouit donc d'une grâce présidentielle en Guinée. Lui qui avait dirigé la junte à la tête du pays entre 2008 et 2009, il avait alors commandité le massacre des opposants dans le grand stade de Conakry en septembre 2009. Aujourd'hui, cette grâce intervient sur décision de l'actuel chef de la junte guinéenne, le général Mamadi Doumbouya. Il évoque des raisons de santé, Mouktarba.
Une décision à la surprise générale annoncée hier soir à la télévision nationale, 8 mois après la condamnation de Moussa Dadis Camara. Arrêté fin 2022 à son retour de Ouagadougou où il a passé 13 ans d'exil forcé, l'ancien chef du CNDD a été condamné en juillet dernier à 20 ans de prison pour sa responsabilité de commandement dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Le décret, lu par le ministre secrétaire général de la présidence, indique que la grâce présidentielle est accordée, je cite, pour raison de santé et que le ministre de la Justice est chargé de son application. Fin de citation. Depuis sa condamnation, Moussa Dadis Camara est détenu à la prison civile de Conakry. La fragilité de son état de santé n'a jamais été évoquée. Le 28 septembre 2009, au moins 157 opposants au régime de Dadis Camara avaient été tués et plus de 109 femmes violées au cours d'un meeting contre sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Quelques mois plus tard, en décembre 2009, Moussa Dadis Camara cédait le pouvoir après avoir échappé à une tentative d'assassinat. Mouktarba, Conakry, RFI.
Une rencontre hier pour apaiser la situation entre la Mauritanie et le Mali. Une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères de la Transition, Abdoulaye Diop, a été reçue à Nouakchott par le président mauritanien Mohamed Ould El Razouani. Au cœur des discussions et de ces récentes tensions, une campagne d'expulsion de migrants en situation irrégulière que mène la Mauritanie depuis plusieurs semaines. La Mauritanie, où un collectif a donné de la voix hier au nom de la justice, le collectif des veuves des militaires qui ont été victimes des exécutions extrajudiciaires survenues dans les casernes entre 1989 et 1990. Manifestation à Nouakchott pour marquer le rejet de l'offre d'indemnisation proposée par les autorités sans jugement préalable. Une insulte à la mémoire des défunts, selon leurs proches. Aissata Diarissal est justement la vice-présidente de ce collectif. Elle réclame la mise en place d'un cadre juridique clair et d'une commission d'enquête. Écoutez sa colère.
Ce sont nos martyrs. Ils ont été massacrés en toute impunité. Nous sommes contre un geste financier qui bloquera toute action judiciaire dans cette affaire. Moi, mon petit frère fait partie des soldats qui ont été tués à Alleg. Des soldats ont été tués et enterrés dans plusieurs villes du pays. Vous savez, il y a beaucoup de fosses communes en Mauritanie, à Inal, à Azlat, à Tigouine. Les personnes accusées d'avoir commis ces crimes doivent être jugées. Ce sont des soldats, des citoyens qui ont été sauvagement assassinés. Le commissaire aux droits de l'homme doit se joindre à nous pour dénoncer cette injustice. Nous refusons catégoriquement ces offres financières, nous sommes contre. Nous voulons que le gouvernement applique la décision qui a été prise par l'ancien président mauritanien Sidi Ould Cheikh Abdallah. Ce dernier avait organisé un dialogue national clair. Il avait même fait un communiqué officiel qui donnait de l'espoir que les auteurs de ces massacres soient jugés. Nous voulons la justice et pas de l'argent.
Voilà la colère d'Aissata Diarissal recueillie au micro d'Oumar Eladj Thiam de la rédaction RFI en full day. La première tentative de médiation au Soudan du Sud depuis le placement en résidence surveillée mercredi du vice-président Riek Machar. Tentative qui vient du Kenya en la personne de Raila Odinga, dépêché hier à Djouba par le président Ruto. Raila Odinga qui n'a pas pu rencontrer Riek Machar mais qui dit avoir eu une discussion détaillée et constructive avec son rival, le président Salva Kiir. Alors que le gouvernement sud-soudanais s'exprimait pour la première fois justement sur le sort du vice-président hier, le porte-parole et ministre de l'Information a accusé Riek Machar d'avoir préparé une nouvelle rébellion. Un accord trouvé dans l'est de la RDC, un cessez-le-feu signé à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, signé par l'AFC M23 et par des représentants de la SADC. Le texte prévoit l'évacuation de la force de la communauté de développement d'Afrique australe car les chefs d'État de la SADC ont acté la fin de son mandat il y a 2 semaines lors du sommet d'Harare. Comment éviter que les jeunes ne succombent aux sirènes djihadistes? Comment prévenir l'extrémisme violent et les conflits communautaires également, notamment dans les zones en proie aux attaques de bandes armées, au terrorisme, comme le Bénin, le Burkina Faso ou le Togo? Pour tenter de répondre à ces questions, une 60aine d'agents des systèmes d'alerte et de prévention de ces 3 pays ont échangé jeudi et hier à Kpalimé, au Togo. Peter Sassou-Dogbé a suivi leur discussion pour nous.
La menace de l'extrémisme violent nécessite un partage de l'information pour la prévenir, selon Louis Topanou, contrôleur général de police au Bénin.
Lorsque dans un pays voisin, des signes de présence ou des comportements sont signalés, pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets dans les pays voisins, le partage rapide de ces alertes pourrait permettre une meilleure prévention.
Dans les zones transfrontalières, un conflit qui naît dans une communauté est vite ressenti. De l'autre côté, explique Korotimi Wangré, la secrétaire permanente de l'Observatoire de gestion des conflits au Burkina Faso.
Pour dire que nous, en réalité, il s'agit juste des lignes qui ont été tracées, mais les communautés, en réalité, n'arrivent pas vraiment à faire cette scission-là de ces lignes.
Le Togo, pays hôte de cette rencontre, suggère une approche globale et pas seulement militaire, affirme le lieutenant-colonel Labanté Dikabou, représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, aux réactions purement militaires et sécuritaires qui restent largement prioritaires dans les politiques des États africains, dit-il, se sont peu à peu ajoutées des approches intégrant les acteurs politiques et civils à l'action des forces de défense et de sécurité. Fin de citation. La rencontre a pris fin hier vendredi avec un rapport et une série de recommandations. Peter Sassou-Dogbé, de retour de Palimé RFI.
Le temps de la campagne électorale qui débute aujourd'hui au Gabon. 8 candidats en lice pour la présidentielle du 12 avril qui refermera la transition débutée après le coup d'État contre Ali Bongo. Une campagne et un scrutin desquels on a discuté ce matin avec notre invitée, la professeure d'histoire d'Afrique subsaharienne Florence Bernot. Entretien à retrouver bien sûr sur Internet. En cette année électorale au Cameroun également, présidentielle et régionale à l'horizon, eh bien les évêques du pays s'adressent aux citoyens et aux autorités dans une lettre ouverte. La conférence épiscopale du Cameroun y appelle à un processus transparent, juste et apaisé. 27 milliards de dollars promis pour lutter contre la malnutrition. Voilà donc la principale annonce du sommet Nutrition for Growth qui s'est refermé hier à Paris. Il a réuni pendant 2 jours décideurs, secteurs privés et associatifs. Des promesses de dons records ont donc été enregistrées, saluées d'ailleurs par la société civile, mais elle espère désormais qu'il ne s'agira pas d'un énième effet d'annonce. Elle attend des résultats, comme l'a constaté auprès des militantes notre envoyée spéciale, Christina Okello.
Des annonces historiques, mais encore floues pour ceux qui, sur le terrain, voient le fin progresser. Agnès Kirabo, directrice de l'ONG Food Rights Alliance en Ouganda.
Ce que les gens veulent savoir, c'est combien d'enfants, combien de mères en âge de procréer ont été réellement sauvés de la malnutrition. On parle de milliards, mais sur le terrain, les gens continuent de mourir. Des enfants sombres dans la faim, des femmes meurent lors de l'accouchement à cause de l'anémie. Ce que nous demandons, ce ne sont pas seulement des promesses, ce sont des résultats concrets, visibles, qui rendent leur dignité aux plus vulnérables.
Une critique récurrente, malgré les 27,55 milliards de dollars promis par des États, banques de développement et fondations privées. La Banque mondiale s'engage à hauteur de 5 milliards, la Banque africaine de développement à plus de 9, et des fonds iront ensuite renforcer les cantines scolaires. Mais pour la société civile, la transparence reste clé. Sonan Jukone, cofondatrice de l'association ASAPSU en Côte d'Ivoire.
On peut saluer le sommet, on peut dire que vraiment c'est un succès. Mais il faut reconnaître aussi que c'est des promesses. Est-ce que les promesses vont rentrer, elles toutes? On n'en sait rien. Il faut que ceux qui reçoivent les fonds fassent en sorte que leur utilisation, l'utilisation des fonds donne confiance
Un appel que les organisateurs disent avoir entendu. Les engagements seront désormais suivis via la plateforme Global Nutrition Report, une tentative pour garantir que ces promesses ne restent pas lettre morte.
Christina Okello, notons que pour le suivi de ces promesses, une plateforme a justement été mise en place par la société civile. 9h40 à Paris, vous retrouvez la suite de vos programmes sur RFI.